terminer le problème dans quel sens, c'est faire dire tout, c'est un lieu charnière extrêmement important. Les deux parcs reliés par l'avant des pieds et séparés par l'avant des pieds. C'est, je crois, extrêmement important pour nous à bien saisir cela. La dernière part que Jésus prend avec ses disciples, qui s'achève dans le cœur de Jésus, et la nouvelle part que Jésus réalise, institue, comme nouveau législateur, comme véritable législateur, et entre les deux, le lavant des pieds. Si le lavant des pieds, c'est l'acte de charité fraternelle éminent, demandez pardon. Demandez pardon. Purifier de votre époux. Un geste de purification. Et c'est aussi un geste d'humilité. Ça comprend dire, c'est une manière dont Jésus, lui, il ne s'accuse pas. Donc vous demandez pardon même quand on ne s'accuse pas. Parce qu'on a été blessé. Sans être fautif, sans avoir commis aucune faute. Alors, c'est Jésus qui fait ce geste d'humilité et de pardon, de purification, avant le mystère de la Pâque nouvelle. C'est donc au niveau de la miséricorde. Dans le prolongement de charité fraternelle, un geste éminent. La nouvelle alliance, la nouvelle Pâque commence à partir de là. Lavez-vous les pieds les uns des autres, c'est-à-dire demandez-vous pardon les uns aux autres et pardonnez les uns aux autres. C'est ce qui est le plus difficile et ce qui est le plus nécessaire. On ne peut pas construire une communauté sans ce pardon mutuel constant. Parce que dès qu'il n'y a plus de pardon, il y a la haine. La haine s'installe dans notre cœur dès qu'il n'y a plus de pardon. Et dès qu'il y a la haine, il y a la division. La haine divise. Le démon essaie toujours de diviser. Et de séparer, de mettre une rivalité et des oppositions. C'est pour ça que c'est très important pour nous de comprendre que les deux Pâques sont liées par ce geste réel, qui est en même temps un symbole, comme un sacrement, si vous voulez. C'est le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon. C'est Jésus qui donne ce sacrement, c'est Jésus qui veut pardonner de la manière ultime. Vous êtes purs parce que vous avez reçu ma parole, mais vous n'êtes pas tous purs. Donc il y a bien dans l'attention du Christ, dans le lavant des pieds, de purification. Alors par la charité fraternelle, nous pouvons nous pardonner mutuellement. Et nous pouvons purifier notre cœur les uns par les autres. C'est bien cela qui caractérise la nouvelle alliance. J'aime dire, c'est cette place unique de la charité fraternelle, comparativement à l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la place prédominante, c'est l'adoration. Et dans la nouvelle alliance, la place prédominante, c'est la charité fraternelle dans la miséricorde du pardon. C'est ça qui caractérise ce que représente cette nouvelle alliance. Et c'est donné comme signe, c'est donné comme signe avant que Jésus réalise l'alliance dans son corps et dans son sang. Et de ce point de vue-là, c'est très grand. De voir sur quoi repose la nouvelle alliance. Elle repose sur le lavement des pieds. Et toute communauté chrétienne repose sur le lavement des pieds. Toute communauté chrétienne n'a de stabilité qu'en raison du lavement des pieds. C'est-à-dire en raison de ce pardon mutuel des uns par rapport aux autres. S'il n'y a plus ce pardon, immédiatement intervient une possibilité de division. Tandis que s'il y a ce pardon, il ne peut pas y avoir de division. Parce que la charité fraternelle est vécue en acte, dans son point ultime, la miséricorde du pardon. Je crois que c'est cela que nous devons essayer de comprendre et vivre. Parce qu'on est tous responsables, les uns les autres, de l'unité d'une communauté. Et vous savez très bien que la chose la plus terrible, c'est la division à l'intérieur de la communauté. La division fraternelle, c'est la chose la plus terrible. Quand on se pardonne, on fait passer devant l'amour, au-delà de nos opinions. La plupart du temps, ce sont les héritages et les opinions qui divisent. Et le vélo, c'est très bien. Ce sont les héritages et les opinions. Alors, on divise à cause de la diversité d'opinions. Et à ce moment-là, on fait passer devant notre jugement propre à l'amour. Et par le fait même, c'est l'orgueil. Et l'orgueil qui est. Et l'orgueil n'est évidemment. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. Si on est très attentif à ça, on ne tombe pas dans le piège du démon. Mais il faut devancer le piège du démon. Parce que si vous attendez qu'il y ait justement cette rivalité au niveau des opinions et au niveau de l'héritage, à ce moment-là, on ne peut plus rattraper. Il est trop tard, il faut devancer, comme toujours dans le livre. C'est pour ça que ça nous est donné à titre d'exemple. En comprenant que ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est nécessaire pour qu'une communauté puisse maintenir l'unité, il faut se laver les pieds toujours. Il faudrait associer pour nous le lavement des pieds et la bénédiction du soir. Si on associe le lavement des pieds, on ne va pas dire qu'on fait matériellement le geste des pieds tous les jours, mais si on associe dans son cœur le lavement des pieds et la bénédiction du soir, je crois qu'à ce moment-là, l'unité d'une communauté est fondée sur le roc. Et si elle est fondée sur le roc, peu importe les tempêtes, peu importe les averses, peu importe les agitations extérieures, il y a quelque chose qui demeure plus fort que tout. C'est ce lien d'amour. C'est ce lien par la miséricorde de Paris. Ça, je crois que c'est capital. Si vous comprenez bien cela, je crois qu'il n'y aurait pas de division dans les communautés religieuses. Parce que les communautés religieuses sont fragiles. Les familles sont beaucoup plus solides qu'une communauté religieuse, parce qu'il y a une unité du sang qui fait l'unité. Mais la fragilité d'une famille, c'est toujours les héritages. À ce moment-là. Et la fragilité d'une communauté religieuse, ce sont les opinions. Théologiques. Ce sont les opinions théologiques diverses qu'on érige en absolu. Et on ne met pas au-delà des opinions et au-delà des héritages la miséricorde qui parle. Et la charité qui regarde les personnes. Donc, je vous avertis. Je vois que c'est très important. Et que c'est capital pour nous. Si on ne vit pas de cela, eh bien, sûrement que la division passe. Pas possible autrement. Parce que le démon le veut. Quand le démon veut quelque chose, il est astucieux. Et comme notre intelligence n'est pas totalement sous l'emprise de l'amour, qu'elle n'est pas totalement sous l'emprise de l'amour, parce que nous ne sommes pas encore saints, et notre intelligence n'est pas encore totalement consacrée, et dès que l'intelligence n'est pas totalement sous l'emprise de l'amour, le démon essaie de l'entraîner dans cette sensation. Alors, il faut savoir la fragilité de toute communauté religieuse. Ça provient des opinions théologiques diverses, ou opinions philosophiques diverses. Et le démon se sert de ça pour pénétrer et diviser. Il faut savoir l'arme divine qui nous est donnée. Faites ceci. Jésus nous demande. Et cette arme, c'est la volonté. Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayant pas peur des divisions. Puisque de fait, il y a de la conviction qui est là pour vous donner la force de maintenir l'unité. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jésus ne parle pas du pluralisme théologique, mais des nombreuses demeures. Alors ce serait intéressant de mettre le parallélisme entre les deux, et bien comprendre les différences qui existent entre les deux. C'est très important pour nous, ça, ce petit passage. Que votre cœur ne se trouble pas. Une parole que le pape aime de rappeler constamment. Ne craignez pas, n'entrez pas dans le trouble. Ne soyez pas angoissés, que votre cœur ne se trouble pas. Nous devons avoir une certitude d'espérance qui permet à notre cœur de ne pas se troubler. Même au moment précis où Jésus va être livré. Donc c'est le moment où nous angoissons. Toujours avant. L'angoisse est toujours le futur. Le futur est immédiat. Alors que votre cœur ne se trouble pas, ça veut dire justement qu'il doit être fondé sur une chapitre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est croire en l'amour. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Les demeures multiples et diverses, c'est dans la maison du Père, c'est-à-dire les lieux qui nous sont préparés. Les demeures, là où nous pourrons reposer éternellement auprès du Père, par Jésus. Bien, ces demeures sont multiples. Sinon, vous aurais-je dit, que je vais vous préparer une place. Et que, et quand je m'en serai allé, et que je vous avais préparé une place, de nouveau je viens, et je vous prendrai auprès de moi, pour que là où je suis, moi, vous aussi, vous soyez. Et pour aller où moi je m'en vais, vous savez le chemin. Alors, réfléchissons un tout petit peu à ce grand mystère que Jésus nous annonce. Et quand je m'en serai allé et que je viens et que je vous aurai préparé une place, donc Jésus s'en va pour nous préparer une place. Il est assis à droite du Père. C'est lui donc qui a reçu l'autorité absolue de tout gouvernement d'Église. Et c'est pour ça qu'il peut nous préparer une place. Parce que quand il s'en va, il va auprès du Père. Il siège à la droite du Père. Et siège à la droite du Père, c'est que le Père lui remet tout le soin d'organiser l'Église, d'un ordre éternel. Et c'est pour ça qu'il nous prépare une place. Alors, comprenons bien. Dans l'ordre de l'amour, il y a une diversité, il y a une hiérarchie. Jésus ne parle pas d'hiérarchie, il parle de diversité. Il y a beaucoup de demeures. Évidemment, beaucoup de demeures veut dire qu'il y a une hiérarchie. Demeurer dans l'amour, c'est demeurer en fonction de l'intensité d'amour que nous avons. La hiérarchie du ciel, c'est nous qui la faisons. Et nous la faisons par la manière dont nous répondons à l'amour du Christ. Si nous répondons à l'amour du Christ avec un très grand amour, nous obtenons le maillot bleu. Exactement ça. Et nous passons devant. Et nous avons donc la possibilité d'être tout proche de Marie. Si au contraire, il ne s'agit pas, nous mettons loin, nous sommes plus loin des hiérarchies diverses. Hiérarchies diverses par rapport à cette proximité plus ou moins grande, c'est une image symbolique qui exprime la proximité plus ou moins grande du mystère de Marie. Le nombreux de l'heure. On demeure auprès du Christ, on demeure auprès de Marie. De nombreux demeurent. Sinon, je vous avais dit que j'avais préparé une place. Sinon, vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Alors, dans l'ordre de l'amour, il y a hiérarchie. Pouvons-nous dire que ça fonde le pluralisme idéologique? C'est un très gros problème, c'est un problème actuel. Ça, il faut regarder ces problèmes actuels dans les lumières de l'Évangile. Vous savez bien que constamment, la cause des erreurs, c'est de passer de ce qui est vrai du domaine de l'amour au domaine de la vérité, et ce qui est vrai du domaine de la vérité au domaine de l'amour. Autrement dit, nous transposons constamment des distinctions vraies dans le domaine de l'amour au domaine de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, le domaine de l'intelligence et le domaine de la volonté, c'est tout à fait parallèle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les forêts quelque chose de remarquable quand on est dans les forêts. Vous regardez ça, vous trouvez des choses comme ça. On voit un pied unique. Puis du pied, vous avez déjà vu ça, deux. Le même pied, au point de départ, moi, ça fait penser à l'esprit, intelligence, volonté. C'est extraordinaire. Ça s'enracine ensemble. Puis à partir de là, deux troncs qui s'en vont. Ils ne sont pas parallèles, sans la même sens. Ils ne sont pas parallèles. Le développement de l'intelligence n'est pas parallèle au développement de la volonté. Il y a une possibilité de voir le développement de l'intelligence et de la volonté de chacun d'entre nous. Alors je verrai quelquefois quelque chose de très différent de ça. Ça peut arriver. C'est moins beau que le reste à moi. Alors, c'est pour ça que je retiens celui-là est très beau. Dans des forêts peintes, des choses comme ça. Et c'est très beau à regarder. Ça vaut la peine d'être regardé. Donc ça signifie quelque chose. C'est beau. Et que le beau est un transcendantal, alors nécessairement, ça exprime le point de vue de la vérité. Ça doit donc exprimer quelque chose de particulièrement intéressant à découvrir. Vous découvrez donc le développement de deux aspects. Mais alors, ils ne sont pas parallèles. Les divisions du côté de la volonté ne sont pas celles du côté de l'intelligence. Vous voyez que du côté de l'amour, il y a une hiérarchie. Il y a du plus et du moins. Il y a les nombreuses demeures. Les nombreuses demeures. Puis-je dire que du côté de la vérité, il y a des nombreuses demeures. Le pluralisme dans l'ordre de l'amour. Oui. Ça, c'est vrai. Et là, c'est facile à regarder. Quand vous regardez un saint Vincent de Paul, quand vous regardez un saint François, quand vous regardez un saint Dominique, quand vous regardez un saint Jean, vous voyez le pluralisme dans l'ordre de l'amour. Un saint Jean et un saint Pierre, lequel vous aimez? Ils ont deux demeures différentes, ça, j'en suis sûr. Alors, lequel près du mari, tout à fait près du mari. Alors là, il est tout proche. Est-ce que je peux parler à partir de là d'un pluralisme dans l'ordre théologique? Dans quel sens le pluralisme théologique est-il acceptable? Faut se poser des questions, ce sont des questions auxquelles on vous posera des questions. On a posé, je ne sais trop combien de fois. Il ne s'agit pas de dire des bêtises, hein. Il ne s'agit pas d'improviser à ce moment-là. On peut dire, oh, je n'ai pas pensé. Tous ces problèmes actuels. On sait de parler du pluralisme de Dieu. Ah, vous n'avez jamais pensé au pluralisme de Dieu? C'est quand même une très grave question de savoir si vraiment il y a un pluralisme de Dieu. Ou si c'est tout simplement une projection du domaine de l'homme dans le domaine de l'intelligence. Ce que des quantités de personnes font, parce qu'il ne faut pas la distinction entre intelligence et volonté. La distinction entre intelligence et volonté, c'est tout à fait typique de Saint-Thomas. Et la distinction entre les deux, voir que l'amour est premier dans l'ordre de l'exécution, dans l'ordre des causalités. Et l'intelligence est premier dans l'ordre de la noblesse, dans l'ordre des qualités. L'intelligence est une noblesse plus grande. La contemplation affective est moins noble que la contemplation esthétique. Hein? Parce que nous avons vu tout à l'heure. Puisque de fait, l'intelligence a une noblesse unique. Tandis que l'amour est le premier dans l'ordre de la causalité, dans l'ordre de la discussion, dans l'ordre du dynamisme, ça c'est sûr. Mais vous voyez qu'il y a deux priorités différentes. Il y a deux priorités différentes, il y a donc deux ordres différents. Et ces deux ordres différents font que ce qui est vrai d'un côté peut très bien ne pas être vrai de l'autre. Alors je reviens, y a-t-il un pluralisme dans la volonté, dans la théologie? Autrement dit, y a-t-il deux vérités? Ou est-ce que de fait, il y a des paliers de recherche de la vérité, et tout le temps, il y a l'unique vérité? Tandis que dans l'amour, il y a des demeures différentes. Il y a un pluralisme dans l'ordre de l'amour. Alors, je peux parler d'un pluralisme dans l'ordre théologique uniquement, du côté de l'expression. Alors ça, je crois que c'est vrai. Il y a un pluralisme du côté de l'expression. Je peux parler d'un pluralisme dans l'ordre de la théologie, du côté des modalités différentes de la théologie. Théologie mystique, théologie scientifique, théologie biblique, là, il y a un pluralisme. Mais évidemment, ce n'est pas ça du tout qu'on entend. On entend le pluralisme de la théologie en fonction des diverses philosophies que vous assumez. Alors là, je dis non. Il n'y a pas de pluralisme. Parce que je n'ai pas le droit de lier la foi à une philosophie erronée. Ce n'est plus de la théologie. La théologie lie la foi à une sagesse, et uniquement à une sagesse, et une sagesse philosophique. Or, il n'y a pas 36 de sagesse philosophique, il n'y en a qu'une. Mais du côté de l'expression, ah, c'est différent. Ça, c'est sûr. Du côté de l'expression, c'est différent. Du côté, donc, aussi, du niveau de la théologie, également. Mais pas du côté de l'instrument dont on se sert. Parce qu'on n'a pas le droit de lier la foi à des philosophies erronées. Vous allez dire, toute philosophie implique une limite. Toute philosophie implique une limite. Et elle n'implique pas nécessairement des erreurs. Tandis qu'une philosophie qui est essentiellement erronée, c'est-à-dire une philosophie idéaliste, pour appeler les choses par leur nom, une philosophie qui commence par les idées. Je ne peux pas allier la foi à une idéologie. Et certains allient la foi à des idéologies au nom du pluralisme théologique. voyez, quand vous regardez la théologie de Saint Bonaventure et celle de Saint Thomas, c'est beaucoup plus un phénomène d'expression qu'un phénomène de structure théologique, puisque tous les deux sont d'accord là-dessus. On n'a pas le droit de lier la foi à une philosophie et rendre idéaliste. Saint Bonaventure est réaliste, Saint Thomas est réaliste. Mais Saint Bonaventure insiste davantage sur le facteur amour et Saint Thomas sur le facteur intellectuel. Donc l'un tend vers une théologie affective et mystique, l'autre une théologie scientifique. Alors, on est tout à fait d'accord. C'est une diversité. Alors, pouvons-nous dire la même chose avec Suarez? Si Suarez, c'est une idéologie, puisque pour Suarez, la métaphysique commence par l'idée d'être fini et infini, je ne peux pas lier la foi à une idée d'être. Impossible. Je ne peux lier la foi qu'à une sagesse. Une sagesse réaliste. Une sagesse qui est la foi. Alors, continuez. Et comme c'est pas important, il faut réfléchir, réfléchissez-y. C'est très important de bien voir ce que je dis tout de suite, nous allons dire. Ce pluralisme dans l'ordre de vie. Cette diversité dans l'ordre de vie. Il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Et que et quand je m'en serai allé, et que je vous avais préparé une place, de nouveau je viens, et je vous prendrai auprès de moi, pour que là où je suis, moi, vous aussi, vous soyez. Alors, ça a été interprété de diverses manières. De nouveau, je viens. Est-ce que c'est le retour du Christ dans la croix? Peut-être ça. De nouveau, je viens. De nouveau, on ne dit pas le temps que ça met. On ne dit pas si c'est 2000 ans ou si c'est 3000 ans. On ne dit pas. De nouveau, je viens. Et je lui prendrai auprès de moi pour que là où je suis, moi, vous aussi vous soyez. Alors, est-ce que c'est Jésus dans cette apparition? Je ne crois pas. Parce que dans ces apparitions, Jésus vient confirmer, non pas emmener, pour les mettre en leur présence. De nouveau, je viens, l'Eucharistie. Oui, tous les retours du Christ. Tous les retours du Christ. De nouveau, je viens. De nouveau, je viens, c'est un retour du Christ. Donc, vous avez trois retours. Le retour en gloire, le retour sous le mystère de l'Eucharistie, le retour pour confirmer qu'il est bien ressuscité. Je crois. Il y a le retour en gloire et le retour de l'Eucharistie qui est directement vu par Jésus. De nouveau, je viens et je vous prendrai auprès de moi pour que là où je suis, moi, vous aussi vous soyez. Donc, l'Eucharistie est le retour glorieux. Or, l'Eucharistie est une attente du retour glorieux, donc, ça vient de nous. Je ne peux pas séparer l'Eucharistie du retour glorieux, puisque c'est bien dit. Donc, de nouveau, regarde bien le mystère de la croix, le mystère du retour du Christ dans sa puissance. Pour que là où je suis, moi aussi, je suis. Pour aller où moi je m'en vais, travail. Seigneur, nous ne savons pas où tu t'en vas. Comment savons-nous? C'est la bonne philosophie de part de toi. Si je ne sais pas dès que je peux voir la mort. Seigneur, nous ne savons pas où tu t'en vas. Comment savons-nous? Jésus nous dit, moi, je suis la voie. Et la vérité, et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès à présent, vous le connaissez. Et moi, et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, depuis si longtemps, je suis avec vous. Et vous me connaissez, et vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment toi peux-tu dire, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que moi je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis, c'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon croyez à cause des œuvres. Et comme c'est fort et comme c'est net, Jésus ne parle plus qu'aux disciples. Et donc, d'une certaine manière, il ne parle plus en parabole. Il parle directement. Parce qu'il parle à des amis. À des amis, on peut parler directement, on peut communiquer les secrets. On n'a plus besoin d'un langage de parabole. Donc, nous voyons d'abord le désir de Thomas. Et Thomas qui avoue son ignorance. Et il y a le désir de Thomas. Le désir de savoir, de suivre Jésus. De savoir le chemin que prend Jésus. Ça, c'est sûr qu'il y a ce désir de Thomas. Et en même temps, son ignorance, il est complètement perdu, c'est pas lui. Il n'a pas compris. Il n'a pas saisi. Et Jésus vient à son aide. Et Jésus lui déclare quelque chose de si important. C'est Thomas qui le reçoit. Moi, je suis le chemin, la voie, et la vérité, et la vie. On a de nouveau une nouvelle affirmation de la personne du Christ. Alors, nous l'avons vu, si vous vous souvenez, dans précédemment ce que nous avions vu, nous avions vu toujours agneau et vous, fils. L'agneau, les deux, le point de vue du pain, le point de vue de la porte. L'époux, c'est le point de vue de la lumière, le point de vue de la sphère. Et le Fils, c'est l'affirmation de Jésus qui dit « Je suis ». Je suis le Fils. Vous avez vu tout ça? Vous vous souvenez? J'espère. Vous vous souvenez, puisque c'est toute la structure théologique. Toute la structure du contenu théologique de l'évangile de Saint-Jean sur le mystère de Jésus. Il est l'agneau, il est l'époux, il est le fils. Et ensuite, les sept affirmations, le pain, la porte, la lumière, le bon pasteur, je suis le fils de Dieu. Et puis la dernière, c'était la résurrection. fuit la résurrection. Et comme la sainteté, je suis la voie. Or, ici, Jésus dit, je suis la voie. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et de nouveau, nous retrouvons cette trilogie. Et elle nous aide à comprendre le mystère de Jésus. Il est l'agneau, il est l'époux, il est le fils. Il est la voix, c'est l'agneau, ça c'est sûr. Il est la vérité, c'est l'époux, c'est la lumière. Il est la vie, c'est le fils. Il est la vie parce que Dieu est la vie. Donc nous retrouvons ici, si vous voulez, c'est intéressant de voir à cet endroit, nous retrouvons Jésus qui reprend quelque chose qui avait été déjà dit grandement de l'autre prière, pour que Thomas ne perde plus pied, pour que Thomas ne s'informe pas, pour que Thomas découvre quelle est la véritable voie, c'est le Christ. Une fois qu'on a le Christ, on a le terme vers lequel nous allons tous vers le Christ. Nous avons donc l'absolu et nous avons en même temps le moyen. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est merveilleux, vous voyez, de faire comprendre comment l'agneau, c'est la voie qui conduit à l'époux et qui conduit au Fils. Il y a un ordre. Il y a un ordre très net. L'agneau est pour le fils. C'est pas à égalité. Et c'est pas à égalité la voie, l'égalité, la vie. Et d'une certaine manière, il y a deux absolus et un intermédiaire, un métaxu. La voie, c'est un intermédiaire. C'est l'adaptation merveilleuse du Christ. C'est le Christ agneau. C'est le Christ qui porte l'unité du monde. C'est le Christ infiniment miséricordieux. C'est le Christ pain, c'est le Christ porte. C'est la même chose. Donc, agneau, pain, porte. C'est la même. L'époux, lumière, professeur. Ça, c'est le lumière. Le Fils, je suis le Fils de l'homme. Le fils de Dieu, je suis la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Il est la voie qui conduit. Il est la vérité qui ne fait qu'un avec le Père. Il est la vie qui ne fait qu'un avec le Père. Il dit la voix. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors là, ça montre très bien qu'il est plus que la voix, parce qu'on peut connaître la voix sans connaître le Père. Tandis que cette voix est une voix conjointe au Père. Ce que les théologiens expriment en disant que l'humanité sainte du Christ est un instrument conjoint. Je m'exprime ces termes-là pour que, quand vous les verrez au traité du Christ, vous compreniez tout de suite hein, que c'est une traduction scientifique, théologique, de ce que dit Jésus quand il dit « voix, agneau, importe ». C'est la même réalité. Tout ça, c'est l'humanité sainte de Jésus. C'est par son humanité sainte qu'il est agneau. C'est par son humanité sainte qu'il est pain. C'est par son humanité sainte qu'il est porte. Et enfin, ça, il est instrument conjoint. Conjoint, c'est-à-dire inséparable ou substantiellement uni à la cause principale. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous le connaissez. Dès à présent, Jésus parle pour ceux qui ont une foi plénière en lui, ce qu'une fois prié en lui, connaissent le Père. Ça, c'est magnifique. C'est comme ceux qui se demandent pour faire oraison, de commencer par le Christ ou commencer par le Père. La réponse, elle est donnée ici. C'est que si vous connaissez Jésus, vous êtes le Père, si vous connaissez le Père, vous êtes Jésus. Donc, ne vous tracassez pas, c'est le même mystère et inséparable. Si vous le connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce qu'on voit Jésus. Voir dans la foi, parce que voir d'une vision biologique, ce n'est pas voir le Père. Mais voir dans la foi le Fils, c'est voir le Père. On ne peut pas ne pas voir le Père sans le Fils dans la foi. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela. Jésus leur dit, depuis si longtemps je suis venu. Et vous ne me connaissez pas. Ça, c'est la très grande souffrance du monde. La très grande souffrance de celui qui est la foi. S'arrêter à la foi et ne pas comprendre que cette voie est vérité et vie, c'est terrible. C'est comme ceux qui s'arrêtent à l'instrument, vous avez ça dans la vie apostolique. Hein. La plus grande souffrance, la plus grande souffrance de l'apôtre, c'est quand on fait de lui un idole. On s'arrête à la foi, alors qu'il est pur instrument, et qu'il désire d'être le pur instrument, d'être celui qui est un tremplin vert, et qui permet de passer la vérité à la vie. Là, on voit bien la souffrance du cœur de Jésus. Depuis si longtemps, je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi peux-tu dire, montre-nous le Père. Mais c'est un scandale, c'est un vrai scandale. Non, je n'ai pas répondu. Parce que je n'ai pas le Fils. C'est merveilleux ça. Parce que là, on dévoile le scandale dans le cœur de Jésus. Un amour qui s'arrête et c'est tombé. Ça va, il va y avoir une petite purification, pas après. La purification de moi. C'est sans doute à cause de ça. Il faut purifier selon une foi. De cette foi qui est trop extérieure. On s'arrête à l'instrument. On s'arrête à Jésus comme voix. On s'arrête à l'humanité sainte de Jésus. On ne peut jamais quitter l'humanité sainte. On ne peut jamais quitter l'humanité sainte de Jésus. Sainte Thérèse de Jésus. On ne peut jamais la quitter. Et on n'a pas le droit de s'y arrêter. On ne passe pas de l'humanité sainte. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que moi je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je dis. C'est le Père demeurant en moi. L'identité, on peut dire, l'identité père qui vous voit votre maître. L'identité qui demande d'être totalement prise de manière spirituelle, divine. Ce n'est pas une identité ontologique, c'est une identité d'amour. C'est une identité de lumière et de vérité. Paroles que moi je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je vous dis, c'est le Père demeurant en moi qui fait son œuvre. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous croyez à cause des œuvres. Jésus est très bien, parfois il n'est pas suffisamment pur pour croire dans cette unité du Père et du Fils. les lumières et leur dit croyez dans mes œuvres. Croyez dans mes œuvres, c'est renvoyer à la foi. C'est par les œuvres que je découvre Jésus comme foi. Et que je peux par là découvrir Jésus comme vérité. Oui, passage très dense au point de vue de la doctrine, au point de vue de la contemplation. Quand vous contemplez Jésus crucifié, vous contemplez le Père. Ne dites pas, je vais quitter le Christ crucifié pour contempler le Père. C'est contraire à tout ce que je vous dis ici. Si vous contemplez en vérité le Christ crucifié, vous contemplez le Père. Et vous avez le droit et le devoir de demeurer dans cette contemplation. Puisque c'est sagesse. Oui. Elle est sagesse. Et vous demeurez dans cette contemplation. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce que moi je vais vers le Père. Vous voyez, l'effacement merveilleux de Jésus comme voix. C'est Jésus comme voix. L'effacement complet. C'est l'effacement du sel par rapport à tout le monde. Vous savez, ça c'est très joli aussi comme image. Quand on connaît les vignes du côté de Cognac et de Bordeaux, c'est des vignes particulières, c'est pas du tout les autres vignes. Des vignes spéciales, parce que quand vous venez aux études de Corée, il faut toujours s'intéresser quand on va dans un pays, de voir comment on coupe la vigne, pour mieux comprendre l'évangile. Et de voir que, en fait, aller en Israël, vous verrez comment la vigne est coupée du côté de différents coins de la vigne. Tout à fait autrement. C'est tout à fait autre chose. Les pieds sont par terre. Quand vous êtes d'accord, hein, les pieds sont extraordinaires. Vous avez des pieds qui sont comme ça quand vous allez en Israël. Vous voyez ce qu'il y a en dessous. Puis alors, les pieds comme ça, quand vous êtes d'accord, hein, vous passez en dessous, vous avez des crampons, vous pas. Alors, quand vous allez du côté de Cognac, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne voyez plus du tout les pieds, le sel. On voit plus, on voit que la mer est là. Vous pensez à l'église, de temps en temps, on aimerait bien voir le Christ, et vous voyez des feuilles de fruits. Et c'est très étonnant, ça fait comprendre, parce que c'est une parabole, c'est descriptif, ça prend des nuances différentes. Et alors ici, vous avez bien ce que nous dit Jésus. Si en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grand parce que je vais. C'est extraordinaire. Comme humilité de celui qui est à toi. Jésus s'efface devant l'Église. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la ville de Cognac, ou de tout le pays de Bordeaux. C'est tous comme ça. C'est la richesse, c'est la splendeur de la vie. Ce sont des villes les plus cultivantes qui existent. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Alors, c'est les feuilles, c'est les fruits qui cachent le tronc. Le tronc de l'encre. Alors, vous voyez cette chose très très belle ici. Jésus montre qu'il va s'effacer devant le mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église qui va porter des fruits plus grands que ceux que Jésus a fait. Alors donc, c'est pas possible. Eh bien, Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces œuvres plus grandes? Ça, c'est vrai, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces œuvres? peut-on faire quelque chose de plus grand que ce que Jésus a fait? Les œuvres, hein, Jésus dit les œuvres. Les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grand parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans mon Fils. Alors, il y a toujours une chèvre à la main. Quelles sont ces œuvres plus grandes que les disciples font par rapport à Jésus? J'en vois une, moi, qui permet tout de suite de comprendre ce que Jésus dit. On pourrait en mettre deux. La première, c'est Jean, qui est responsable de la dernière croissance de la vie de la Sainte Vierge sur la Terre. Et la croissance de la vie de la Sainte Vierge sur la Terre, c'est la plus grande des œuvres qui existent. Et Jésus n'a pas assisté à cette croissance, il a laissé Jean. Il s'est effacé devant Jean. Pour que son sacerdoce réalise quelque chose de plus grand que lui n'a réalisé. Le fruit par excellence de la croix, c'est Marie dans sa compassion. Or, le mystère de la compassion de Marie demande de grandir. Et c'est Jean qui sera au vrai Marie. Dans sa dernière étape de sa vie. Et donc, Jean réalise une œuvre plus grande que Marie dans Jésus. Jésus s'efface, c'est le grand effacement. Ça, c'est le grand mystère de la très sainte Trinité. Ce sont les effacements de Dieu. Je ne dis pas l'unité. Pour Jésus, on pouvait dire l'unité. Mais je ne dis que les effacements, parce que c'est tout en l'ordre de l'amour. On peut parler des grands effacements de la très sainte Trinité. L'effacement du Père par rapport au Fils, l'effacement du Fils par rapport à l'Esprit Saint. L'effacement du Verbe incarné face. Au mystère même de Jésus s'efface devant son Église. On laisse toute la place. Parce que moi, je m'en vais de le faire. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit. Donc Jésus promet cette assistance, et une assistance qui fait que ceux qui seront mus par lui réaliseront une œuvre plus grande que lui. Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, moi, je le ferai. Alors l'efficacité absolue de lui. Parce que Jésus promet l'efficacité absolue de lui. Et cette efficacité absolue de la prière, c'est pour glorifier le Père dans le nom du Christ. Alors, l'efficacité absolue de la prière, c'est si on prie avec Jésus et de la part de Jésus, dans le nom du Christ. In persona Christi. Agir dans la personne. Ça, je crois que là aussi, nous comprenons. Pas de l'intensité. Je ne crois pas qu'on puisse dire tout le monde.